Et aujourd'hui, j'aimerais regarder avec vous un bloc de 3 chapitres. Habituellement, lorsque nous lisons la Bible, nous sélectionnons des petites péricopes. Et c'est un petit peu plus difficile d'avoir un aperçu plus global. Mais cet après-midi, je voudrais regarder avec vous 3 chapitres, 1 Samuel 24, 25 et 26. Je ne lirai pas tout, mais je vais lire certaines sections et je vais vous présenter des résumés pour mieux comprendre le contenu de l'ensemble du texte que nous regardons ce matin, cet après-midi. Alors, comme vous voyez à l'écran, nous allons regarder quelques épisodes dans la vie de David en rapport avec la maîtrise de soi. Alors, vous allez voir à l'écran, j'ai mis à quelques reprises MS. Alors, n'essayez pas de deviner ce que c'est. C'est pas maître seigneur, c'est plutôt maîtrise de soi. Ça fait un petit peu moins long dans les notes. Et en tout cas, à l'écran, ça nous permet de raccourcir les titres. Mais auparavant, j'aimerais prier le Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier encore une fois pour ta parole, parce qu'elle est notre nourriture. Tu nous parles au travers de la Bible. Et c'est vrai, lorsque tu parles, nous voulons nous aussi dire, parle car ton serviteur écoute, ta servante écoute. Seigneur, que notre respect pour la parole de Dieu se manifeste aussi par notre écoute. Nous te demandons donc de nous parler cet après-midi. Amen. Vous avez certainement vécu des situations qui étaient extrêmement difficiles. Et parfois, certains auteurs ont utilisé l'expression « la chaleur ». Vous savez, quand il fait chaud dans la ville, la pression est là, les problèmes s'accumulent, la chaleur monte. C'est une belle métaphore, mais l'accent évidemment sur ce que nous vivons et sur l'intensité des épreuves que nous pouvons parfois vivre. J'aimerais ce matin regarder un peu certaines situations dans lesquelles David a trouvé que c'était vraiment chaud. L'épreuve était vraiment solide, difficile à surmonter. Et on va le faire dans 3 chapitres. Tout d'abord, le chapitre 24. Là, j'essaie de savoir si ça marche, mais ça avance pas. Chapitre 24. Là, ça va? Ok. Non. 2 fois. Petit problème technique. Comment? Ah, ça marche. Ah, c'est vous qui l'avez fait? Bon. Ouais, si vous voulez l'avancer, je peux le faire moi aussi. Hein, c'est comme vous voulez. La corde est trop courte. Bon. Alors, nous allons regarder 3 épisodes de la vie de David. Premièrement, au chapitre 24, Saül poursuit David. Vous savez que Saül en voulait à la vie de David. Et nous allons voir dans ce chapitre l'épisode de la caverne d'En-Gedi. Ensuite, nous allons voir une deuxième situation extrêmement difficile pour David, au chapitre 25. Au chapitre 25, David fait face à l'ingratitude de Nabal. Nabal, c'est un homme qui a profité de David et de ses hommes, puisque David et ses hommes ont protégé ses troupeaux. Et quand David a un besoin particulier, il se tourne vers Nabal en se disant « Nabal va m'aider, moi j'ai tellement fait du bien ». Eh bien non, Nabal refuse de l'aider. Il refuse de lui donner de la nourriture pour ses hommes et pour David. Et c'est une situation extrêmement difficile, non pas parce que David est poursuivi par Saül, mais il fait face aussi à un méchant. Nabal, ça veut dire fou, quelqu'un qui est fou. Donc dans les 3 chapitres, David fait face à 3 hommes, à 2 hommes, Saül, Nabal, et ensuite au chapitre 26, encore une fois à Saül, qui poursuit David dans le désert. Et cette fois-ci, David va demander à un de ses hommes d'élite de venir avec lui dans le camp de Saül pour lui prendre sa lance et sa cruche alors qu'il dormait au milieu de ses hommes d'élite. Alors voilà un petit peu les circonstances qui nous présentent la vie de David, la chaleur, le stress, les épreuves à travers lesquelles il a pu vivre. Et la plupart du temps, c'est dans des épreuves, dans des difficultés, que nous montrons si nous avons la maîtrise de nous-mêmes. Quand l'épreuve devient difficile, quand le stress devient difficile, eh bien, la vraie personne, notre vraie personne, c'est fantastique, ça marche. Je pense qu'on avait oublié d'ouvrir ça, hein, c'est ça. Vous voyez, c'est ça. Il faut mettre ça sur on. Alors donc, c'est dans ces circonstances que nous pouvons démontrer ou non si nous avons de la maîtrise de nous-mêmes. En fait, la maîtrise de soi, ce n'est pas nécessairement une qualité humaine. D'un point de vue humain, on peut être, de façon générale, quelqu'un qui se maîtrise plus ou moins. Mais la Bible nous dit que la maîtrise de soi, ça fait partie du fruit d'esprit. Vous savez que le fruit d'esprit nous est présenté sous 9 caractéristiques dans l'Épître aux Galates. Et chacune des caractéristiques sont liées les unes aux autres. Nous ne pouvons pas vivre la joie si nous ne sommes pas en paix. C'est... Puis on pourrait prendre chacune des 8 caractéristiques et dire que nous ne pouvons pas vivre chacune d'entre elles si nous n'expérimentons pas la maîtrise de nous-mêmes. C'est si je ne me contrôle pas, forcément que je vais perdre ma joie, je vais perdre ma paix, il y a beaucoup de conséquences qui vont s'en suivre. Alors, de manière générale, quand on parle de la maîtrise de soi, nous pouvons dire qu'il s'agit du fruit d'esprit, mais nous pouvons ajouter que dans certains cas, Dieu, dans sa providence, agit en nous pour éviter que notre manque de contrôle de nous-mêmes nous entraîne dans des difficultés. Et dans le psaume 141, je pense qu'une des versions dit, ou fait allusion au fait qu'on demande à Dieu de ne pas nous laisser à notre mal, à notre péché. T'sais. Donc, nous avons besoin que Dieu nous aide aussi à ne pas pécher pour éviter certains problèmes, parce que notre inclinaison naturelle, ce serait de pécher. Alors, au chapitre 25, on va voir un exemple de cela. Alors, voici le plan que je voudrais vous proposer pour ce matin, cet après-midi. Il faut vraiment s'ajuster hein, ce matin, cet après-midi. Au moins, quand vous faites le service l'après-midi, vous ne dormez pas. T'sais. D'habitude, les gens ils dorment le matin à l'église. Au moins, l'après-midi, c'est fantastique. Alors, voici le plan. La maîtrise de soi et l'occasion. Est-ce que il y a un lien entre saisir les occasions qui sont devant nous et la maîtrise de soi? Et c'est ce que nous allons voir en rapport avec le chapitre 24. Dans le deuxième chapitre, nous allons voir comment Dieu aide David à ne pas tomber en rapport avec un manque de contrôle. David a fait preuve d'un manque de contrôle au chapitre 25. Alors qu'au chapitre 24, il a fait preuve d'un contrôle extraordinaire. Et vous savez, quand on a une victoire dans un domaine, ça ne veut pas dire que maintenant c'est fini, on va avoir la victoire toute la vie dans ce domaine-là. Alors au chapitre 24, ça a eu un très bon comportement. Mais au chapitre 25, ce n'est pas du tout le même type de comportement. Et il manque de contrôle de soi. Et au chapitre 26, de nouveau les questions de Saül qui poursuit David. Et là encore, David va faire preuve de contrôle de lui-même. Mais j'aimerais, dans cette troisième section, que nous puissions mettre l'accent sur la maîtrise de soi et la foi. Parce que c'est le manque de foi qui souvent nous fait tomber et qui nous fait perdre le contrôle. Alors, regardons tout d'abord le chapitre 24, 1 Samuel, chapitre 24. Alors, comme je l'ai dit, je vais tantôt faire des résumés ou lire des versets spécifiques pour que nous puissions vraiment mieux comprendre le contexte. Chapitre 24, à partir du verset 4. Alors, Saül décide de poursuivre David avec des hommes d'élite. Il rassemble 3000 soldats d'élite d'Israël. Et le texte nous dit au verset 4, « En passant près des parcs à moutons en bordure du chemin, il vit une grotte et y entra pour satisfaire un besoin naturel. Or, David et ses hommes se tenaient précisément au fond de cette grotte. Les compagnons de David lui chuchotèrent, Voici le moment annoncé par l'Éternel lorsqu'il t'a promis de te livrer ton ennemi pour que tu le traites comme bon te semble. Alors David se leva, et au lieu d'aller couper la gorge de Saül, il coupe un pan de manteau de Saül sans que celui-ci s'en aperçoive. Verset 6, dès qu'il l'eut fait, son cœur se mit à battre très fort, parce qu'il avait coupé un pan du manteau de Saül. Il dit à ses hommes, que l'Éternel me garde de jamais faire une chose pareille et de porter la main sur mon Seigneur à qui Dieu a conféré l'onction. Car c'est de la part de l'Éternel qu'il a été oint. Par ces paroles, David arrêta ses hommes. Il ne les laissa pas se jeter sur Saül. Et le roi sortit de la grotte et continua son chemin. À la lecture de ces quelques versets, nous pourrions nous poser une question importante. Cet événement est-il le fruit de la providence de Dieu qui livre Saül entre les mains de David, ou est-ce un test pour David? Alors, les soldats de David, eux, ils ont opté pour la première option. Ah, c'est Dieu dans sa providence qui te livre David entre nos mains. Et remarquez ce que les hommes de David lui disent au verset 5. Voici le moment annoncé par l'Éternel lorsqu'il t'a promis de te livrer ton ennemi pour que tu le traites comme bon te semble. Il n'y a aucun passage dans la Bible qui nous rapporte une promesse que Dieu aurait faite à David de le livrer entre ses mains pour que David puisse le mettre à mort et qu'il puisse en être délivré. Alors, c'est probablement une interprétation de ces soldats de David qui savaient certainement que David avait été oint pour être le prochain roi. Et c'est leur perception. Et parfois aujourd'hui, nous agissons souvent en fonction des perceptions. Nous croyons que dans certains événements, c'est Dieu qui agit. Et d'autres personnes interprètent les choses différemment. Non, ce n'est pas vraiment Dieu qui agit. Est-ce que la vie chrétienne consiste simplement à réagir à certaines perceptions que nous avons? Or, si toi tu as une certaine perception, ben ça va, c'est bon pour toi. Toi tu as une autre perception, ben c'est bon. Mais pour David, ce n'était pas une question de perception. L'attitude de David est très simple. Même si Saül se trouve livré entre ses mains et qu'il pourrait le tuer, David est convaincu qu'il ne doit pas porter la main sur celui que Dieu a choisi. Cela ne veut pas dire que David cautionne les péchés de Saül. Cela signifie simplement que David reconnaît que Dieu a fait un choix et il reconnaît que c'est Dieu qui va intervenir si jamais il faut ôter à David, à Saül, la royauté. Donc David reconnaît que c'est important pour lui de respecter ce roi. D'ailleurs, quand il a coupé un morceau de son manteau, son cœur s'est mis à battre. Comment ça, j'ai fait ça au roi d'Israël, j'ai fait ça à loin de l'Éternel, tu sais. Son respect pour le choix de Dieu est tellement grand dans le cœur de David qu'il ne veut pas ôter la vie du roi. Vous savez, il y a un dicton qui dit, en français, « L'occasion fait le larron ». Et quand on a une occasion, eh bien on pêche, tu sais. Si tu vas au magasin, et puis que la personne à la caissière se trompe dans la facture, et puis tu sors du magasin avec un 100$ de réduction, enfin c'est pas de réduction, c'est une erreur, tu sais. Qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que l'occasion fait le larron, tu sais? Alors tu n'avais pas l'occasion avant, mais tant que tu as l'occasion, ben, tu dis rien. Et t'empoches le 100$ dans la poche. Tu te mets le 100$ dans la poche. T'sais. Est-ce que l'occasion fait le larron? Est-ce que ce proverbe s'adapte aussi à nous? T'sais, ah oui, nous sommes des bons témoins de Jésus-Christ, mais s'il y a certaines occasions qui sont devant nous, ah ben, on pourrait vraiment faire des écarts. T'sais. Est-ce que c'est vraiment ce qui caractérise notre vie? Ou est-ce que nous avons des principes et que nous savons discerner ce que Dieu veut, même s'il semblerait que dans cette situation-là, nous pourrions peut-être... Ben en fait, en faisant cela, nous allons désobéir à Dieu. Alors, Dans ce chapitre 24, nous allons voir qu'il s'agit d'un appel à la justice divine. Verset 9. Verset 9 au chapitre 24. Alors David sortit de la grotte derrière lui et appela Saül. Mon Seigneur le roi. Remarquons le respect de David. Saül se retourna et David s'inclina respectueusement le visage contre terre et se prosterna. Ah, c'est le gars là qui en veut à David. Hein. C'est pas la première fois, il a failli déjà le clouer contre la paroi lorsque David jouait de la musique pour calmer son mauvais esprit. Ça s'est produit deux fois. Vous connaissez différentes expériences de David face à Saül. Mais se prosterne visage contre terre. Puis il dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu ceux qui te disent que je cherche à te nuire ? Aujourd'hui même, tu vois de tes yeux que l'Éternel t'avait livré à mon pouvoir dans la grotte. On me disait de te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit, « Je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il a reçu l'onction de la part de l'Éternel. » Regarde ! Oh, le vocabulaire change là. « Oh mon Père !» Ça, c'est un terme qui remplit d'émotion. Hein. Voyez-vous l'état de cœur de David là ? Il n'est pas du tout rempli de vengeance envers Saül. Il le considère même comme son père. Il n'était pas obligé d'utiliser cette expression-là. Regarde, ô mon père, oui, regarde ce que je tiens dans ma main. Un pan de ton manteau. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, reconnais donc qu'il n'y a de ma part ni malveillance, ni révolte, et que je n'ai aucun tort envers toi. Alors que toi, tu me traques pour m'ôter la vie. Alors même si David est très respectueux, il est lucide. Hein. Il ne va pas minimiser le mal que Saül fait. Parfois, on ne veut pas trop de conflits. Alors, quand on s'adresse à quelqu'un avec qui on a des relations un petit peu difficiles, on minimise la souffrance, on minimise les actions de l'autre. Mais non, David est tout à fait réaliste. Hein. Donc, il dit bien au verset 12, « Toi, tu me traques pour m'ôter la vie ?» Que l'Éternel juge entre moi et toi et qu'il te fasse payer le mal que tu m'as fait. Il est clair, hein, David. Tu m'as fait du mal, mais moi, je ne porterai pas la main sur toi. Comme le dit le vieux proverbe, du méchant vient la méchanceté, mais je ne porterai pas la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël est-il parti en guerre ? Qui poursuis-tu ? Un chien mort, une misérable puce. Je ne sais pas si par humilité vous êtes déjà traité de puce vous-même, en tout cas. Remarquons le langage de David. Oui, l'Éternel sera notre juge et prononcera son verdict entre moi et toi. Qu'il examine et qu'il défende ma cause, qu'il me fasse justice et qu'il me délivre de toi. Donc dans ces quelques versets, voici quelques commentaires que nous pouvons faire relatifs à David. David, dans les versets 10 et 12, déclare son innocence. J'ai rien fait contre toi. J'aurais pu te tuer. J'ai rien fait contre toi. Il déclare son innocence et dans les versets 13 à 16, il fait appel à la justice de l'Éternel. C'est l'Éternel qui va faire justice entre toi et moi. Donc au lieu de prendre les choses en main, au lieu de contrôler la situation, David laisse à Dieu le contrôle. Il fait appel à la justice de l'Éternel. Alors devant l'exemple de David, nous pourrions nous poser quelques questions quant à savoir comment réagissons-nous face à l'injustice. Et l'injustice sur cette terre, elle peut être vraiment horrible. Ça peut être révoltant, vraiment révoltant. Mais certains sont beaucoup plus sensibles à l'injustice que d'autres. Et on dirait qu'à peine il y a une petite injustice en quelque part, ces gens veulent se porter au secours de ceux qui sont injustement traités. On dirait qu'ils réagissent, c'est très rapidement, c'est comme un réflexe. Et ils ont du mal à vivre avec l'injustice. Parce qu'en fait, même si tu n'aimes pas l'injustice, la plupart du temps, que peux-tu faire contre l'injustice ? Et de voir notre incapacité à trouver des solutions ne veut pas dire qu'on approuve l'injustice, absolument pas. Mais ici, David, face à l'injustice dans sa situation, il se confie en l'Éternel. Alors, si vous êtes trop sensible face à l'injustice, peut-être que ce n'est pas la bonne expression, si vous êtes très sensible face à l'injustice, confiez-vous à l'Éternel et faites-lui confiance. Remarquons dans ce chapitre aussi l'attitude de Saül. À partir du verset 17, Saül va parler à David, « Est-ce bien toi qui me parle, mon fils David ?» Il se met à pleurer. Donc Saül est touché. Bon, c'est un émotif, Saül, parce que deux chapitres plus loin, il décide de poursuivre David de nouveau. T'sais. Et David comprend un petit peu ce que vit David. Il n'est pas dupe. Même s'il pleure, David n'est pas dupe. Mais Saül, dans ces quelques versets, reconnaît que David est plus juste que lui. Verset 18. « Puisque toi, David, tu m'as traité avec bonté, alors que moi je t'ai fait du mal. » Il reconnaît qu'il a fait du mal. Vous voyez, « Tu viens de montrer aujourd'hui que tu agis avec bonté envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré en ton pouvoir et que tu ne m'as pas tué. » Vous voyez, c'est Saül, c'est intéressant dans sa prise de conscience. Hein. Saül dit, « C'est l'Éternel qui m'a livré en ton pouvoir. » Et ce n'est pas pour ça que David l'a tué. Comprenez-vous? Donc, saisir une occasion, est-ce que c'est vraiment une occasion que Dieu me donne pour que j'agisse de telle manière, ou c'est un test pour ma foi? Alors nous avons besoin, comme nous l'avons dit, du discernement. Donc Saül reconnaît la bonté de David et va même plus loin. Il dit au verset 21, « Maintenant, tu vois, moi Saül, je sais que tu seras certainement un roi un jour et que le royaume d'Israël sera stable sous ton autorité. » Ah ça, c'est tout un aveu de la part de Saül. Et Saül qui avait des craintes, hein. Il avait des craintes. Et la crainte qu'il avait, il l'aborde au verset 22, il a peur que David, en devenant roi, extermine sa famille. Et dans le Proche-Orient ancien, ça arrivait à chaque fois qu'il y avait un changement de dynastie, le nouveau roi éliminait tous les membres de la famille du roi déchu, ou du roi qui était mort, pour éviter que les fils du roi précédent un jour réclament la royauté, puis que ça soit un danger pour lui. Alors Saül avait des craintes vis-à-vis de David, mais David le rassure en lui promettant de ne pas agir ainsi. Donc voilà, premier chapitre, chapitre 24, saisir l'occasion. L'occasion fait le larron. Non, pas pour David. Deuxième chapitre, c'est un chapitre aussi très intéressant, qui nous présente l'épisode avec Nabal. Nabal, ça veut dire fou. Hein. C'est un gars qui n'a pas de sagesse. Il était très riche. Et Nabal a profité de David et de ses hommes, qui ont donc surveillé ses troupeaux, qui ont fait en sorte que personne ne vole Nabal, que certainement ses biens soient protégés. Mais voilà que David, à un moment donné, fait face à un grand besoin. Il a besoin de nourriture pour lui et ses hommes. Et nous allons voir que dans le défi devant lequel David se trouve, Dieu va intervenir pour éviter que David perde le contrôle et perde la maîtrise de soi. Alors quand Dieu agit ainsi, il nous sauve bien des problèmes. Ce n'est pas toujours le cas. David, quand il a voulu faire le recensement, Dieu l'a laissé aller. Et probablement pour montrer à David que son cœur n'était pas tout à fait droit. Mais dans d'autres cas, Dieu agit de telle sorte pour nous empêcher de tomber dans le péché et de nous faire mal. Mais dans les deux cas, c'est la grâce de Dieu qui agit. Hein. Dans un cas, la grâce de Dieu démontre à David qu'il a péché. Et dans l'autre cas, Dieu, dans sa miséricorde, empêche David de commettre des actes regrettables. Alors, dans sa providence, nous allons voir dans ce chapitre... Ah, j'étais pas synchronisé avec le PowerPoint. Mais nous allons voir que dans sa providence, Dieu va restreindre le mal que David pourrait faire. Et quand je pense à ma vie chrétienne, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je serais devenu si tu ne m'avais pas sauvé? Dans quel travers est-ce que je serais tombé? Parce que certainement, je suis sûr que je serais tombé dans plein de travers. Même en tant que chrétien, nous ne sommes pas parfaits, n'est-ce pas? Mais si Dieu n'avait pas touché notre cœur par sa grâce, qu'est-ce que ça aurait donné à notre vie? Alors, dans sa providence, on va voir au chapitre 25 que Dieu va restreindre, il va restreindre la colère de David. Sous l'effet de la colère, nous perdons le contrôle de nous-mêmes. Hein. Nous perdons la maîtrise de nous-mêmes quand nous sommes en colère. C'est pareil au volant de, notre véhicule. J'ai regardé une émission à télévision il y a 2-3 jours, ou un reportage. Une femme est allée en compagnie d'un chauffeur de camion et elle a vu le comportement des automobilistes. Et la conclusion de ce reportage, c'était que les gens aujourd'hui conduisent plus mal qu'avant. Ils changent de voie sans mettre le clignotant, ou ils conduisent de manière agressive, ils sont en retard, ça va vite. Tu sais, le volant, c'est un bon test pour savoir si nous pratiquons la maîtrise de nous-mêmes. Tu sais, ou si nous conduisons comme un fou, là, de manière avec manque de sagesse. Alors, dans sa providence, Dieu va restreindre la colère de David. David, il est extrêmement déçu. Et souvent, ce qui provoque la colère dans notre vie, c'est la déception. Et quand nous sommes en colère et que nous ne contrôlons pas notre colère, ben cette colère nous amène à une perte de contrôle de soi. Alors la déception, qu'est-ce qui dans notre vie nous déçoit et fait que nous sommes en colère? En tant que chrétien, souvent nous avons des colères, mais des colères cachées, parce que nous sommes des bons chrétiens. Il ne faut pas montrer qu'on est en colère. Mais en fait, on est véritablement en colère. Et dans certaines circonstances, cette colère, nous ne pouvons pas la contrôler, puis elle ressort. Lorsque j'étais à l'école biblique, je n'ai pas vraiment compris ce qui m'est arrivé. À un moment donné, je crois que c'était un samedi matin, on faisait du ménage, du nettoyage à l'école biblique. Et un des étudiants s'est approché de moi, puis s'est mis en colère contre moi. J'étais tellement surpris, je ne savais pas quoi dire. Je dis, mais pourquoi il est en colère contre moi? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui suscite sa colère? Alors après, j'ai essayé de comprendre ce qu'il vivait, mais il y avait quelque chose qui était refoulé en lui, qu'il n'avait jamais bien traité. Et moi, j'étais un petit peu pour lui le symbole d'un étudiant évangélique. Puis lui avait beaucoup de difficultés avec le monde, le milieu évangélique. Beaucoup d'agressivité avec le milieu évangélique. Je ne vous raconte pas pourquoi, c'est trop long. En tout cas, il s'est trouvé que c'est sur moi que cette colère-là est tombée. Mais ici, dans ce cas-là, David est extrêmement déçu parce qu'il a protégé les biens de Nabal et il s'attendait, pour lui, ça allait de soi. Ça allait de soi. Nabal, maintenant, j'ai des besoins, je suis sûr qu'il va me donner à manger. C'est certain, après tout ce que j'ai fait pour lui. Et quand il est déçu, oh là, la colère de David monte. Et elle monte comme un ouragan qui s'en vient là, ou qui une tempête qui éclate soudainement. David, au verset 13, nous dit le chapitre 25, David parle à ses soldats. Il ordonne à ses hommes que chacun prenne son épée. Chacun met son épée à la ceinture. David aussi saignit la sienne et partit avec environ 400 hommes, laissant les 200 autres pour garder leurs affaires. Parce que David a pris le temps de consulter l'Éternel? Est-ce qu'il a pris le temps de prendre du recul? Absolument pas. C'est une réaction spontanée. Hein, tout de suite, là. Il apprend la réponse de Nabal. Tout de suite, on prend les armes, on y va. On va lui régler son compte. Alors, vous avez dans ce chapitre quatre références. On va regarder tout d'abord simplement le verset 26, parce que les autres répètent la même idée. C'est Abigaïl qui parle. Vous savez qu'Abigaïl, quand elle a appris que David venait avec 400 soldats pour régler le compte de toute la tribu de Nabal, c'est pas juste Nabal, hein. Remarquez comment la colère de David était quand même disproportionnée. Il voulait régler le compte à toute la tribu de Nabal, hommes, femmes, enfants, serviteurs, etc. Alors, l'épouse de Nabal dit, moi je vais prendre de la nourriture et je vais l'amener à David. Elle l'a fait secrètement. Et là, elle rencontre David, elle lui livre la nourriture. Et par ce geste, elle a arrêté la colère de David. Et regardez ce qu'elle dit au verset 26. « Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai, c'est Abigaïl qui parle à David, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu l'es toi-même, c'est l'Éternel qui t'a empêché de t'engager dans la voie du meurtre et de te venger toi-même, que les ennemis de mon Seigneur et ceux qui lui veulent du mal deviennent comme Nabal. » C'est intéressant parce que David n'a pas encore dit qu'il... Le texte ne dit pas que David a renoncé à sa colère meurtrière, tu sais. Mais cette femme, elle prépare le terrain, hein. Elle dit, ah, je sais que tu as décidé, David, de ne pas concrétiser ta frustration, ta colère. Mais elle dit en tout cas très clairement que c'est l'Éternel qui t'a empêché. C'est elle qui est utilisée par l'Éternel, c'est elle l'outil, elle et son serviteur, parce que c'est d'abord un serviteur qui est allé voir Abigaïl pour lui dire, écoute, là, il y a quelque chose qui s'en vient avec David. Puis Nabal, il a réagi de manière complètement irréfléchie. Donc c'est l'Éternel utilise le serviteur et Abigaïl, mais tout de suite Abigaïl, dans son humilité, dit que c'est l'Éternel qui l'a empêché de s'engager dans cette voie-là. Remarquons donc l'humilité de cette femme. Alors il y a quatre références, vous les avez à l'écran, verset 26, verset 33, verset 34 et verset 39. Donc à un certain moment donné, c'est David lui-même qui reconnaît que l'Éternel est intervenu dans sa providence pour restreindre sa colère et l'empêcher de commettre le meurtre. Alors comme je viens de le dire, Dieu utilise des hommes, il utilise des femmes dans des situations de crise pour nous empêcher de faire des erreurs. Est-ce que nous savons les écouter? Abigaïl, le geste qu'elle a posé a été extraordinaire. Ça a apaisé complètement David. Alors, est-ce que nous sommes des serviteurs de Dieu, comme Jésus les appelle, des artisans de paix? Ou, quand nous sommes tentés de perdre le contrôle de nous-mêmes, est-ce que nous écoutons ce que Dieu met sur notre chemin, les artisans de paix que Dieu met sur notre chemin pour nous éviter de perdre le contrôle de soi-même, de nous-mêmes? Dans sa providence, Dieu parle aussi, il nous instruit. Hein. Dieu instruit les hommes de David dans la caverne d'En-Gedi par l'exemple de David. Je veux dire, l'exemple de quelqu'un qui se contrôle, ça parle, c'est un témoignage. Et l'exemple du père qui s'énerve tout le temps au volant de sa voiture alors que les enfants sont derrière, ça parle aussi, mais ça ne dit pas le même message. C'est la manière dont nous contrôlons nos émotions, la manière dont nous avons la maîtrise de nous-mêmes, est tout un témoignage envers ceux qui nous écoutent. Et dans ce cas-là, au chapitre 24, David est un témoignage pour ses soldats, même si tous ses soldats n'acceptent pas la décision de David. Hein. Mais au chapitre 25, c'est Dieu qui restreint David, et là encore c'est le témoignage de Dieu dans la vie d'un homme qui aime son Dieu. Nous sommes en présence de deux situations dans laquelle David fait preuve de discernement, chapitre 24, deuxième situation dans laquelle David fait preuve d'aveuglement. Mais oh, quelle grâce d'avoir un Dieu qui, malgré nos aveuglements, vient nous éclairer pour nous éviter de perdre notre contrôle. Dans sa providence aussi, nous pouvons remarquer dans ces deux chapitres et les chapitres précédents, c'est que Dieu encourage. Dieu n'est pas là en train de dire à David, « David, je veux que tu te contrôles toi-même. » Alors maintenant, il faut que tu fasses des efforts pour contrôler toi-même. Mais non, Dieu n'agit pas comme ça. Dieu, il agit dans la vie de David et il encourage David, et cet encouragement sert à David pour bâtir une meilleure maîtrise de lui-même. Pourquoi se maîtriser? Ben, Dieu m'a donné la victoire devant Goliath, n'est-ce pas? Dieu me libère devant Saül. À plusieurs reprises, Dieu l'a libéré devant Saül. Oh, Dieu lui donne la victoire face aux Philistins lorsqu'il sera en guerre. Mais c'est Dieu qui agit dans ma vie. Eh bien, pour David, ça devait être un encouragement. Un encouragement à continuer à faire confiance en Dieu. Dans un cas, il a fait preuve de maîtrise de lui-même, chapitre 24. Dans l'autre cas, il a failli tomber, si ce n'était de la grâce de Dieu. Vous avez trois encouragements que Dieu donne aussi, spécifiques. C'est que dans ces trois références, il est dit à chaque fois, David, tu vas régner sur Israël. Une personne qui lui dit au chapitre 24, c'est Saül. Une autre personne qui lui dit au chapitre 25, c'est Abigaïl. Et il y a d'autres, il y a aussi Jonathan qui avait déjà dit à David, hein, qui était convaincu qu'il allait régner sur Israël, le fils du roi, imaginez-vous. Là, alors Dieu encourage par toutes sortes de moyens David, et il le fait dans sa providence, comme il l'a fait d'ailleurs avec Joseph. La vie de Joseph, c'est une vie exemplaire en ce qui a trait à l'action de Dieu, la providence de Dieu dans la vie de quelqu'un. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Hein. Alors Joseph, il a eu des hauts et des bas. Mais dans sa providence, Dieu a tout contrôlé. Et Joseph est resté fidèle à Dieu. Joseph a toujours fait preuve de maîtrise de lui-même, tu sais. Particulièrement devant cette belle femme qui voulait coucher avec lui. Ouais, mais c'est la femme de son patron, tu sais. Alors, il a résisté, n'est-ce pas? Et quand elle voulait même s'accrocher à son vêtement, il a fui en lui laissant son manteau entre les mains. Et manteau dont elle s'est servie pour l'accuser par la suite, n'est-ce pas? Donc, Dieu, dans sa providence, nous protège. Prions Dieu pour que Dieu nous protège. Pour que Dieu nous protège de nous-mêmes, pour que nous puissions faire preuve de maîtrise de nous-mêmes. Troisième élément, chapitre 26 de ce bloc que nous regardons ensemble. Chapitre 26, rebelote, Saül décide de nouveau de courir après David. David se trouve dans les collines de Hakila, à la lisière du désert de Ziph, et de nouveau, Saül prend avec lui 3000 hommes, ça c'est le début du chapitre 26, 3000 hommes d'élite pour y traquer celui qu'il considère comme son ennemi. Le verset 3 nous dit qu'il établit son camp dans les collines de Hakila, et David s'est aperçu donc que Saül était venu le poursuivre, et David va faire preuve dans sa foi, parce qu'il est question de la foi de David dans ce chapitre, comme nous allons le voir. David va... Là, il avance plus. Ah, ça y est. David va faire preuve d'audace. Il va faire preuve d'audace. Bon, ça fait peut-être écho à certains titres sur la foi, l'audace de la foi. T'sais. Bon, il faut faire attention, hein, parce que parfois notre audace n'est que le fruit de notre manque de sagesse. Mais ici, David fait preuve d'audace et Dieu va appuyer l'audace de son serviteur. Le verset 6 nous dit ceci. David appela Ahimelech le Hittite et Abishai, fils de Tsiruya et frère de Joab, et leur demanda « Qui de vous viendrait avec moi jusqu'à Saül dans le camp ?» Bah, David, t'as une drôle d'idée, là, tu vas aller visiter Saül en plein milieu du camp, tu sais. Et Abishai répond « Bien, je suis prêt à y aller. » Il se glisse de nuit au sein de la troupe de Saül qui était en train de dormir, et le texte nous dit que l'Éternel a fait tomber un profond sommeil sur Saül et ses 3000 hommes, ce qui permet à David et Abishai de s'avancer jusqu'au chevet de Saül qui était étendu à terre. Et là encore, Abishai dit, écoute, aussi vrai que l'Éternel est vivant. Ah, lui, il a un bon vocabulaire évangélique, chrétien, tu sais. Aussi bon que l'Éternel est vivant, aussi vrai que l'Éternel est vivant, eh bien, cette nuit, Dieu livre ton ennemi en ton pouvoir. Permets-moi de le clouer au sol d'un seul coup de lance. Je ne voudrais pas y revenir deux fois. C'est des hommes qui savent se battre, là, ils savent comment tuer quelqu'un d'un seul coup, tu sais. Et David lui dit, non, il dit, ne le tue pas. Car qui resterait impuni après avoir porté la main sur celui à qui l'Éternel a conféré l'onction? Aussi vrai que l'Éternel est vivant, là j'ai lu un petit peu trop vite, c'est pas Abishai, mais c'est David qui emploie cette expression. Aussi vrai que l'Éternel est vivant, c'est l'Éternel qui le frappera, soit en le faisant mourir, verset 10, de mort naturelle, soit en le faisant périr à la guerre. Alors, l'audace de David est jumelée avec le respect qu'il a pour loin de l'Éternel. Nous en avons parlé pour le chapitre 24. Ce même respect revient au chapitre 26. David, au verset 10, prononce des paroles vraiment intéressantes. C'est l'Éternel qui le frappera. C'est Dieu qui va. C'est la conviction de David. Alors remarquons que non seulement il est convaincu que c'est Dieu qui va agir, mais que David ne sait pas comment Dieu va agir. Souvent c'est l'insécurité, le manque de connaissance des événements à venir qui font que nous perdons le contrôle. T'sais? Mais ici, ce qui suffit pour David, c'est de savoir que Dieu va agir. Comment? J'en sais rien. Peut-être que Dieu va le faire mourir de mort naturelle. Bon, S'il vit 100 ans, là, ça va être long. Hein. En tout cas, je ne sais pas, mais c'est Dieu qui va agir. Ou soit, Dieu va le faire périr à la guerre, et c'est la deuxième option là, qui va se réaliser dans les chapitres suivants. David fait preuve de foi. On va le souligner un peu plus en détail tout à l'heure. Et c'est à cause de sa foi dans l'intervention de Dieu que David ne veut pas prendre le rôle de Dieu. David ne veut pas contrôler sa vie au point où il va prendre entre ses mains ce qui revient à Dieu. Alors, mais malgré sa foi, n'oublions pas que David est dans la détresse. Vous savez, David est dans la détresse. C'est facile de parler de la foi des gens, mais c'est autre chose que de se rappeler dans quel contexte cette foi se manifeste. Dans la détresse. On en a parlé. Saül poursuit incessamment David. Est-ce que c'est ce que David va souligner au verset 18 ? Pourquoi mon Seigneur, quand il parle à Saül, poursuit-il ainsi son serviteur ? Vous savez, quand Saül s'est réveillé le matin, David s'est mis sur une colline un petit peu à l'écart. Il a interpellé le garde du corps de David, ou en tout cas un de ses hommes d'élite, en lui disant « Qu'est-ce que t'as fait là, cette nuit, t'as pas protégé ton maître ? Où est sa lance ? Où est sa cruche ?» David les avait pris, toutes les deux. Et à ce moment-là, il y a un dialogue qui s'établit entre David et Saül. Et David lui dit « Pourquoi tu me poursuis ?» Mais être poursuivi par quelqu'un qui veut t'ôter la vie, c'est quand même une source de stress. Pas à peu près, n'est-ce pas? Et c'est une poursuite incessante avec des hommes d'élite. Vous savez qu'une certaine occasion, les 3000 soldats de Saül marchaient sur un versant de la colline et de l'autre côté, David et ses hommes marchaient. Et inexorablement, ils allaient se rencontrer. Qu'est-ce qu'a fait le Seigneur? Il a permis que les Philistins attaquent Saül et que Saül cesse de poursuivre David pour aller s'occuper des Philistins. Vous savez, encore une fois, Dieu encourage, Dieu intervient dans la vie de Saül. Le deuxième élément qui décrit la détresse de Saül, ce n'est pas simplement la persécution la détresse de David, ce n'est pas simplement la persécution dont il fait l'objet, mais au verset 19 et 20, il est question du détachement de l'héritage. Lisons 19. Maintenant que mon Seigneur donne écouter les paroles de son serviteur, si c'est l'Éternel qui t'incite à agir ainsi contre moi, qu'il se laisse apaiser par mon offrande. Mais si ce sont des hommes qui t'excitent, qu'ils soient maudits devant l'Éternel, puisqu'ils m'ont banni pour m'empêcher de rester dans le pays accordé par l'Éternel comme possession à son peuple. Au fond, c'est comme si ces gens qui m'avaient banni, dit David, au fond, c'est comme s'ils disaient « Va adorer des dieux étrangers. » Ah, mais là, est-ce qu'on comprend le désir de David là ? Est-ce qu'on comprend l'attachement de David au pays promis par Dieu ? C'est dans ce pays promis par Dieu que Dieu se révèle. Et si vous me bannissez de ce pays, c'est comme si vous me disiez « Je te bannis du peuple de Dieu, maintenant va-t'en adorer avec les autres dieux. » C'est pour quelqu'un qui a écrit dans les psaumes son désir profond de vivre dans la présence de l'Éternel. Vous vous rappelez ces psaumes-là ? Où il veut contempler la beauté de l'Éternel. David a tellement soif d'être en présence de l'Éternel. Puis là, on lui dirait, ben, va-t'en. C'est toute une épreuve pour lui. C'est tout un désespoir. Nous pouvons penser aussi à la détresse du Christ à Gethsémané. Oui, le Christ a fait confiance à son Père. Hein. Son Père allait le ressusciter d'entre les morts. Christ le savait. Mais au travers de la foi de Christ, il y a aussi une douleur, il y a aussi une souffrance, il y a aussi une détresse qui s'exprime notamment dans le jardin de Gethsémané. Mais remarquez la maîtrise de soi de Jésus. Cloué à la croix. Rappelez ce qu'il a dit ? Père, pardonne-leur. Cloué à la croix, il voit Jean puis sa mère. Mais comment ça se fait que Jésus pense à ces deux-là en disant « Femme, voilà ton fils » et en disant à Jean « Voilà ta mère ». Il voulait que quelqu'un prenne soin de sa mère. Là, à la croix, en train de souffrir, il pense aux autres. Si nous, quand on souffre, je ne sais pas comment vous êtes, vous, quand vous souffrez, mais vous pensez au Tylenol, vous pensez à quelque chose d'autre, mais est-ce qu'on pense vraiment aux autres? Quel exemple de maîtrise de soi que le Seigneur nous donne? Alors, cette maîtrise de soi, bien, elle est possible à cause de la foi. Et c'est cet espoir-là que nous retrouvons dans les versets 21 à 25. Alors Saul s'écria, « J'ai commis une faute, reviens mon fils David, je ne te ferai plus de mal, puisque cette nuit tu as épargné ma vie. J'ai agi comme un insensé et j'ai commis une grave erreur. » Oh, David ne tombe pas dans le panneau. Hein. Revenir là auprès de Saül, non, il a peut-être de bonnes intentions pour l'instant, mais on ne sait jamais comment ça va tourner avec lui. T'sais. Alors David répond au verset 22, « Voici ta lance, ô roi, envoie l'un de tes jeunes gens pour venir la prendre. Que chacun de nous soit traité selon sa justice et sa fidélité par l'Éternel. Car il t'avait livré aujourd'hui à mon pouvoir, mais je n'ai pas voulu porter la main sur celui qui a reçu l'onction de sa part. Comme ta vie a été pour moi d'un grand prix aujourd'hui, ainsi ma vie sera d'un grand prix pour l'Éternel, et il me délivrera de toutes mes détresses. » Alors Saül reprit, « Sois béni, mon fils David, certainement tu accompliras beaucoup de choses et tu réussiras tout ce que tu entreprendras. » David n'a pas confiance en Saül. Mais David a confiance en Dieu. C'est ce que nous disent les versets 23 et 24. L'Éternel me délivrera de toute détresse. Est-ce que ça veut dire que David a fait un sans faute? Absolument pas. Un petit peu plus loin, si on lit le livre de Samuel, David décide d'aller vivre chez les Philistins. T'sais. Il était tanné là, que Saül le poursuive. Alors que le prophète Gath lui avait dit, reste dans le sud de Juda. Ah, il s'en va vivre avec les Philistins. Puis là, il a tellement peur de perdre la vie qu'il se fait passer pour un fou, il bave, tout ça. Puis le roi dit, ah, ben, c'est le célèbre David, non, c'est pas lui, là, on va le laisser là. Puis à un moment donné, il est obligé de jouer un double jeu. Hein? Il demande au roi de lui donner un petit village pour qu'il puisse être tranquille et faire ses affaires sans que le roi s'en aperçoive, le roi de Gath. Et puis il mène des razzias contre les ennemis d'Israël. Mais il liquide tout le monde pour qu'il n'y ait pas de preuves, tu sais. Puis il revient dans le village que le roi lui a donné. Puis quand les Philistins décident d'attaquer Israël, la question se pose, bon David, tu viens avec nous ou tu ne viens pas avec nous attaquer Israël? Oh là là, qu'est-ce que David a fait en prenant la décision d'aller vivre chez les Philistins, tu sais? Bon, il n'a pas fait un sans faute, David. Mais David a la conviction, en tous les cas, d'après ce texte, que Dieu va le délivrer de toutes ses détresses. Et c'est la foi qui te permet, qui me permet de faire preuve de maîtrise de moi-même ou de toi-même. Sans la foi, eh bien, nous doutons. Et sans la foi, nous ne nous contrôlons plus, surtout quand les choses ne se passent pas comme nous voulons et que nous perdons le contrôle. Remarquez encore au verset 25 que Saül va encourager David. Voilà. Il va encourager David en lui disant qu'il va réussir dans tout ce qu'il entreprendra. Conclusion. Je n'ai pas demandé ce matin combien de temps j'avais, j'espère que je suis dans le temps. Conclusion. Soulignons quelque chose qui revient dans ce livre de 1 Samuel. Et ce qui revient, c'est l'échec de l'être humain. Regardez quelques exemples. Élie et ses fils. Vous rappelez les fils d'Élie qui prenaient des offrandes qui étaient réservées à l'Éternel, qui les prenaient pour eux-mêmes, ou qui couchaient avec les femmes qui venaient adorer l'Éternel. C'est vraiment des méchants, méchants prêtres. Et Dieu a prononcé un jugement sur eux. C'est un échec. Saül, c'est un échec. C'est le début du livre de Samuel, 1 Samuel en tout cas, c'est une référence à des échecs. Et même Samuel le prophète, regardez, son incapacité à voir le cœur. Quand Dieu lui dit, va oindre roi, un successeur à Saül. Ah, Samuel, il fait passer les fils d'Isaïe devant lui, il voit le fils aîné, il est grand, il est beau. Ah, c'est certainement lui que Dieu a choisi. C'est pas lui. Parce que Dieu ne regarde pas l'apparence, mais regarde au cœur. Et David, au chapitre 25, avec cet épisode de Nabal, eh bien, démontre aussi que naturellement, il ne peut pas toujours faire preuve d'une maîtrise de lui-même. Mais dans sa providence, Dieu veut nous apprendre. Et il peut nous apprendre à faire preuve de maîtrise de nous-mêmes en nous testant. En nous testant. Comme il a testé David dans la caverne d'En-Gedi. Même si ses combattants lui disaient, hey, tu peux y aller, là, tu peux le tuer. Non, non. David, il a réussi le test et il apprend à se contrôler. Deuxièmement, Dieu, dans sa providence, peut agir de telle sorte qu'il nous protège du mal. Prions Dieu pour que Dieu nous protège du mal. Prions Dieu. Mais vraiment, prions Dieu. Et troisième élément, c'est que Dieu nous donne la foi. Et il nous donne le Saint-Esprit. Et si nous pouvons faire preuve de maîtrise de nous-mêmes, c'est par la foi dans le Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes habités par l'Esprit. Et l'Esprit veut que nous manifestions les œuvres du Saint-Esprit afin d'être un bon témoignage. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, tu connais la vie de chacun d'entre nous. Et tu sais quand nous perdons patience. Mais Seigneur, nous voudrions ce soir, cet après-midi, te demander pardon parce que bien souvent, au lieu de reconnaître que nous avons un problème de contrôle de nous-mêmes, nous trouvons des excuses dans les autres et dans les situations. Et comme Adam te l'a dit, Seigneur, nous disons, c'est la femme que tu as mise auprès de moi. Première excuse de l'être humain dans toute l'histoire. Et Seigneur, nous trouvons toutes sortes d'excuses. Je suis fatigué. J'ai des problèmes au travail. Les enfants sont insupportables. Et en cela, Seigneur, nous voulons justifier notre manque de maîtrise de nous-mêmes. Au lieu de te demander pardon. Et au lieu de te demander de nous apprendre à refléter cette qualité qui appartient aux fruits de l'Esprit. Seigneur, tu sais dans nos vies, tu nous connais. Tu nous connais, Seigneur. Et tu sais dans quel domaine nous avons des difficultés à faire preuve de maîtrise de nous-mêmes. Seigneur, nous voulons être honnêtes devant toi cet après-midi. Pardon pour toutes ces occasions, Seigneur. Et aide-nous, nous t'en prions. Amen. Alors, en guise de petits mots de conclusion, si vous avez des problèmes à vous rappeler, des exemples, vous avez perdu la maîtrise de vous-même, demandez à votre conjoint ou à vos enfants, ou à vos amis.